Vous écoutez Radio France Internationale, il est minuit ici à Paris, 23h en temps universel.
Galibonin.
À la une de l'actualité, c'est une chute précipitée, celle du gouvernement portugais. Le Parlement a rejeté une motion de confiance demandée par le Premier ministre de droite modérée, compte rendu en début de journal. Les armes vont-elles finalement se taire en Ukraine? Kiev a accepté un cessez-le-feu de 30 jours proposé par Washington. Mais les Américains doivent encore convaincre les Russes. Les Russes qui, eux, gagnent du terrain. Moscou annonce avoir repris une série de localités dans la région russe de Koursk, partiellement occupée par les forces ukrainiennes. Le Maroc est devenu la destination de choix des politiciens français. Depuis la visite d'État d'Emmanuel Macron en octobre, les grosses pointures de la politique française y défilent. Un rapprochement qui attise les tensions entre Paris et Alger. Et il est moins cher, plus petit et plus loin. L'aéroport de Beauvais au nord de Paris est l'option low cost des voyageurs, mais il fait face à une opposition féroce d'associations environnementales.
RFI.
Mais d'abord, vous l'avez entendu, suivi sur notre antenne, le Paris Saint-Germain qui vient tout juste de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après une défaite de 0-1 contre Liverpool au match aller, les Parisiens ont pris leur revanche en gagnant 1-0 à Anfield. C'est l'attaquant Ousmane Dembélé qui a ouvert le score à la 12e minute. Le match s'est conclu avec des tirs au but, 4-1 pour le PSG. Il aura duré à peine un an. Au Portugal, le gouvernement de centre-droit vient d'être renversé après avoir perdu la confiance du Parlement. Empêtré dans une polémique de possibles conflits d'intérêts, le Premier ministre Luis Montenegro va devoir démissionner. Une démission précipitée qui ouvre la voie à des élections législatives anticipées. Le compte-rendu de notre correspondante sur place, Marilyn Darcy.
Les députés d'opposition, à l'exception des libéraux, ont rejeté la motion de confiance que Luis Montenegro avait lui-même réclamée. Les débats à l'Assemblée mardi ont été houleux, marqués par des tentatives de Montenegro d'obtenir des socialistes qui changent leur position. Mais ceux-ci, qui forment un groupe de 78 députés, avaient prévenu dès l'arrivée de Montenegro au pouvoir il y a un an qu'ils laisseraient travailler ce gouvernement, mais ne lui accorderaient pas leur confiance. Montenegro semble avoir tout fait pour échapper à une commission d'enquête parlementaire que réclame le PS. Elle porterait sur d'éventuels conflits d'intérêts entre sa société et celle d'un ami, la Solverde, hôtel et casino. Or, c'est l'État qui accorde les concessions des casinos. Montenegro n'a pas convaincu dans ses explications sur cette affaire et d'autres. Plutôt que démissionner, il a préféré une motion de confiance, perdue d'avance. Il a annoncé être candidat à sa succession lors des législatives anticipées qui auront lieu probablement en mai, les troisièmes en un peu plus de 3 ans. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
En Ukraine, l'espoir d'une trêve se concrétise. À l'issue d'une rencontre au sommet en Arabie Saoudite, la présidence ukrainienne accepte la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. En réponse, Washington a annoncé le dégel immédiat de l'aide militaire et le partage de renseignements avec Kiev. Donald Trump les avait suspendus après la visite catastrophique de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Moscou et Washington évoquent maintenant la possibilité de discussions prochaines entre les deux pays. Et sur le terrain, les combats, eux, se poursuivent au détriment de l'armée ukrainienne. La défense russe a annoncé mardi avoir repris 12 villages de la région russe de Koursk, région partiellement occupée par les forces ukrainiennes, de quoi augmenter la pression sur Kiev dans ses négociations. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
Progressivement, les forces russes reprennent à l'armée ukrainienne les territoires qu'elle avait conquis dans la zone frontalière de Koursk. L'offensive lancée par les forces russes en territoire ukrainien, plus précisément dans la région de Soumy, à quelques dizaines de kilomètres de la Russie, semble porter ses fruits, dans la mesure où les soldats russes tentent de prendre à revers les troupes ukrainiennes dans le but de les isoler en territoire russe. L'objectif affiché par Moscou dès cette invasion ukrainienne en août dernier reste inchangé, repousser l'armée ukrainienne au-delà des frontières de la Russie. Et à l'heure où les pourparlers de paix se précisent, Moscou développe une énergie particulière pour parvenir à ses fins. La raison en est très simple. Le jour où les Russes et les Ukrainiens entreront dans le dur des pourparlers de paix, le Kremlin n'a aucune envie de faire des concessions à Kiev. Échanger des territoires russes contre des territoires ukrainiens serait un camouflet pour Vladimir Poutine. Voilà qui explique l'intensité des combats, les avancées des troupes russes afin de s'asseoir en position de force à la table de négociation lorsque le moment sera venu. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Et dans ce contexte, la question sécuritaire est sur toutes les lèvres en Europe. Devant un parterre de chefs d'état-major, le président français a lancé la planification des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il faut passer du concept au plan, a martelé Emmanuel Macron. Les représentants militaires de 34 pays étaient réunis à Paris mardi, principalement les membres de l'Union européenne, mais aussi des pays alliés comme le Canada, l'Australie ou encore le Japon. Objectif, préparer l'après-guerre en Ukraine avec des garanties solide sans devoir compter sur le parapluie américain. Au Moyen-Orient, les rebelles houthis du Yémen annoncent qu'ils vont reprendre leurs attaques contre les navires israéliens. Le groupe rebelle soutenu par l'Iran avait donné un ultimatum à l'État hébreu pour qu'il lève le blocus sur Gaza. L'acheminement d'aide humanitaire et de carburant est interdit depuis une semaine et l'approvisionnement en électricité dans l'enclave palestinienne est bloqué depuis 2 jours. Paris souhaite un apaisement des relations avec Alger, déclaration du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. C'était mardi à l'Assemblée nationale, mais l'apaisement, ça ne se décrète pas unilatéralement, a-t-il ajouté. La France et l'Algérie sont en froid diplomatique depuis l'annonce cet été d'un soutien français au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Mais depuis, le Maroc est devenu la première destination des politiques français. Pas moins de 4 personnalités s'y sont rendues depuis la visite d'État d'Emmanuel Macron en octobre, une manière d'incarner le réchauffement diplomatique entre la France et le Maroc au détriment des relations avec Alger. Stéphane Duguay.
La députée macroniste Éléonore Carrois voit ses déplacements ministériels d'un bon œil. Quand il y a un changement de contexte géopolitique, c'est bien de le montrer, dit-elle. Référence à la reconnaissance en juillet par Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est justement là où la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est rendue fin février, sans en informer le chef du gouvernement, d'après le journal Le Monde. Elle avait alors revendiqué être la première des ministres français à poser le pied sur ce territoire disputé. L'Algérie avait vivement condamné ce déplacement, de quoi tendre encore un peu plus les relations avec la France. Chez les parlementaires, certains grincent des dents. Dans l'opposition, la députée écologiste Sabrina Sebaï trouve normal que les ministres aillent au Maroc, mais selon elle, aller au Sahara occidental, c'est envoyer un signal négatif en disant, je cite, « on ne peut plus travailler avec l'Algérie ». Même dans le camp présidentiel, un cadre reconnaît embarrassé que le Premier ministre ou le Président aurait dû être prévenu de cette visite. En tout cas, les députés français de la Commission des Affaires étrangères veulent eux aussi aller au Maroc. Ils devraient rencontrer les parlementaires marocains fin avril, début mai.
Stéphane Duguay. L'ex-président des Philippines est attendu à La Haye, aux Pays-Bas, où il sera jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Rodrigo Duterte a été arrêté mardi matin à Manille en vertu d'un mandat d'arrêt de la CPI qu'il accuse d'exécution extrajudiciaire systémique lors de sa guerre contre la drogue. Président des Philippines de 2016 à 2022, il a mené une campagne de répression anti-drogue pendant laquelle des milliers de Philippins, principalement des pauvres, ont été tués par les forces de l'ordre. Il est souvent considéré comme l'aéroport low-cost de Paris, l'aéroport de Beauvais, et dans le collimateur de plusieurs associations. Notre affaire à tous, Sauver le Beauvaisis, et l'ADERA, l'association de défense de l'environnement des riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé, annonce avoir déposé un recours pour exiger la renégociation du contrat de concession aéroportuaire, une opposition liée aux questions environnementales. Pauline Glaise, du service environnement de RFI.
La concession de l'aéroport Paris-Beauvais a été confiée pour 30 ans en octobre dernier à Belova, société entre autres constituée de Bouygues Construction. Belova a amené dans ses cartons un projet de modernisation à 190 millions d'euros en tablant sur une hausse du trafic. Pour Dominique Lazarski, présidente de l'ADERA, la fréquentation doit au contraire cesser de croître.
Nous ne demandons absolument pas la fermeture de l'aéroport, ni même d'ailleurs la réduction de l'activité, mais un plafonnement à son niveau actuel.
Les associations à l'origine du recours craignent dans un premier temps une augmentation de 85% du nombre de passagers entre 2019 et 2030. Sur son site internet, Aegis, membre de Belova, vise à terme 45 000 rotations par an contre 37 000 l'an dernier. Au-delà des motivations climatiques, Dominique Lazarski craint que l'accroissement du trafic n'ait un impact sur la santé des riverains.
Des centaines d'études démontrent le rôle du bruit aérien dans le développement de maladies cardiovasculaires et bien sûr la pollution de l'air aux oxydes d'azote et aux particules entraîne d'autres maladies cardiovasculaires également, mais aussi des cancers, des maladies des bronches.
Belova envisage de réaliser les travaux sur le foncier déjà détenu par l'aéroport.